Santé, environnement, climat, flux migratoires. Dans son nouveau livre, le microbiologiste Didier Raoult passe en revue un certain nombre d'événements pour les éclairer à la lumière de la science. Exit les prophéties apocalyptiques, les prédictions abominables et les inquiétudes liées à l'arrivée de nouvelles épidémies. Nous sommes, selon lui, à l'aube de découvertes exceptionnelles capables de remédier aux problèmes à venir. Didier Raoult se présente comme athée sceptique. Il n'hésite pas à égratigner Darwin, à douter du cataclysme climatique ou encore à croire en l'homme génétiquement modifié. Un scientifique sans langue de bois, il est mon invité dans un instant avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À l'une de la science aujourd'hui, la découverte d'un groupe de plancton géant pourtant passé inaperçu jusque-là. Axel Villard, bonjour.
Et oui Mathieu, la masse totale du vivant dans les océans vient de grimper de 5% d'un coup avec la découverte de l'importance de ces rizaires. C'est énorme et on vous explique dans un instant à la une.
C'est Céline Hila qui est aux commandes de notre tête au carré aujourd'hui.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Didier Raoult.
Bonjour.
Vous publiez chez Michel Lafon « Arrêtons d'avoir peur ». Alors si, comme vous l'écrivez, l'homme a toujours eu peur du changement, est-ce que vous pensez que les avancées scientifiques que vous annoncez comme exceptionnelles seront de nature à nous rassurer ?
Ah, ça, je suis pas sûr que ça rassurera. Je crois que chez l'homme, il y a deux aspects qui sont en conflit permanent. Une partie de la population qui voudrait que les choses soient fixes, qu'elles ne bougent plus, et qui interprète le passé comme étant un passé fixe, ce qui est une illusion, c'est de l'ignorance vraiment brutale. Et puis, une partie des gens qui voient les choses changer, bien sûr, elles s'accélèrent à une vitesse considérable, et soit on prend ce changement comme étant inéluctable et on s'adapte, on fait avec, on le gère, ou bien alors on le refuse et on se trouve dans une situation qui est de toute manière intenable parce que personne n'arrive jamais à arrêter le changement qui est intrinsèque à l'histoire du vivant.
C'est pour ça que vous nous dites « Arrêtons d'avoir peur » avec beaucoup de sujets que vous abordez dans cet ouvrage sans concession. On se retrouvera dans quelques minutes pour en discuter avec donc les messages des auditeurs. À tout à l'heure.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Une espèce de plancton géant passé inaperçu et qui pourtant pèse lourd dans les océans du globe, c'est à la une de la science aujourd'hui.
On a beaucoup regardé les étoiles, on a été fasciné par les constellations dans le ciel. Et finalement sur Terre, dans les océans, on a des organismes qui ont des formes aussi absolument incroyables, des couleurs absolument incroyables. Mais peu de gens ont réussi à les observer, à les voir. C'est des systèmes qui sont extrêmement dynamiques et j'adorerais que les gens arrivent à comprendre, à appréhender cet environnement qu'on voit tous les jours, qu'on croise tous les jours. Mais si on s'y arrête pas, on les voit pas. Parce qu'ils sont trop petits.
Et ils s'appellent les rizaires, ils sont partout, ils sont très nombreux, ces planctons géants de presque 1 cm de diamètre, ce qui est très gros pour du plancton, représente à eux seuls 5% de la biomasse dans tous les océans. Bonjour Fabrice Note.
Bonjour.
Vous êtes biologiste marin à la station Céleres de Roscoff en Bretagne et vous êtes co-auteur de cette étude publiée dans la revue Nature. Et puis avec nous en studio, Hervé Kempf, notre partenaire du magazine Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, du plancton en plus et beaucoup, beaucoup dans nos océans. C'est une bonne nouvelle pour la planète, ça?
Oui, et Fabrice Natt va nous l'expliquer très bien. Mais avant qu'il nous explique ce que c'est que ce formidable Rizaria, ce groupe de nouveaux planctons, il faut rappeler ce que c'est que le plancton. Et le plancton, en soi, c'est absolument essentiel à la vie. Ce sont des êtres marins constitués d'une seule cellule qui sont presque pas à l'origine de la vie mais qui existent depuis très longtemps, qui sont développés depuis longtemps, dont les experts, les scientifiques disent qu'ils ont inventé, mis au point la photosynthèse et l'ensemble du plancton produit déjà, on le sait, la moitié de l'oxygène sur Terre. Certains l'appellent, c'est la forêt des mers. Il y a le phytoplancton, c'est des végétaux qui plus tard s'est transformé en zooplancton, comme le groupe dont nous allons parler. Et puis ce sont aussi ces petits organismes essentiels qui vivent dans l'océan. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire océanique. Eh bien voilà, des chercheurs français et allemands ont trouvé un super plancton qui est beaucoup plus grand, il va nous le montrer, que la plus grande espèce sur Terre, la baleine bleue, qui elle aussi vit dans les océans et se nourrit de plancton.
Axel.
Alors Fabrice note, ils sont gros, ils sont partout. Pourquoi on ne les découvre que maintenant, ces rizaires?
En effet, ces rizaires géants étaient passés inaperçus jusqu'à présent et c'est essentiellement dû à la méthode de collecte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait des filets à plancton hein, de façon classique et ces méthodes de collecte détruisent les organismes fragiles. Et donc ces géants, en fait, sont des géants au pied d'argile puisqu'ils sont eux-mêmes très fragiles et il a fallu qu'on utilise une technique d'imagerie in situ, c'est-à-dire qu'on a mis une caméra dans l'eau pour pouvoir les observer vivantes. Et cette caméra a été développée par mes collègues de la station marine de Villefranche-sur-Mer.
5% de la biomasse de tous les océans, c'est gigantesque. Vous confirmez ce chiffre?
Non seulement je confirme ce chiffre, et puis c'est certainement un chiffre qui est sous-estimé pour ce groupe de risères, puisque là, avec cette caméra, on a une contrainte technique qui fait qu'on n'a observé que les plus grands d'entre eux. Mais il en existe aussi des petits qui viendraient s'ajouter à cette contribution à la biomasse. Mmh. Et donc 5%, on est vraiment sur une estimation minimale.
Pour estimer un peu ces 5%, il faut compter en tonnes, en gigatonnes, comment il faut compter ?
Il faut compter en plusieurs milliers de gigatonnes. On fait des chiffres astronomiques en termes de quantité de carbone. On a un peu du mal à se les représenter souvent.
Ouais, Didier Raoult, une petite analogie quand même, parce que le plancton géant, comme les virus géants, plus c'est gros et plus c'est difficile à découvrir au fond.
Oui, parce que on vit sur des légendes scientifiques, si vous voulez, qui empêchent la découverte de choses qui sont hors des clous. Les virus avaient la réputation depuis le 19e siècle d'être petits, et donc les virus géants échappaient complètement à ça. Et une régulation, ça sera très intéressant de voir si ça existe, ce plancton géant, une dérégulation majeure du plancton dans les océans sont les épidémies de virus géants et les épidémies de virophages qui infectent les virus géants et qui diminuent l'agression des virus sur les planctons. Donc tout ça, effectivement, a des liens.
Fabrice Nott, quel est le secret de ce groupe de plancton pour prospérer si facilement et abondamment donc dans les eaux du globe ?
C'est assez intéressant ce que vient de dire Diarout, puisque effectivement c'est des interactions entre organismes. Alors ça peut être des virus qui viennent effectivement décimer des populations de plancton, mais là en l'occurrence ces organismes vivent en symbiose avec des microalgues, un peu à la manière des coraux si vous voulez. Donc il y a l'organisme rhizaire qui en son sein abrite des microalgues symbiotiques, et c'est ce qui lui permet notamment de vivre au centre des grands océans où la très 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 pauvre en sel nutritif par ailleurs.
On peut les voir à l'œil nu, ces rhizaires, quand on regarde dans l'eau directement ?
Alors pour certains d'entre eux, en effet, ils vont pouvoir s'agréger et former des colonies qui peuvent faire plusieurs centimètres de long parfois, et qu'on pourrait éventuellement prendre pour des méduses. Alors sur leur forme unicellulaire, ils sont relativement difficiles à voir à l'œil nu, mais effectivement, quand ils commencent à s'agréger, on peut les observer.
Ouais, alors Fabrice Nott, 5% de biomasse en plus qui va s'ajouter à la biomasse totale, donc effectivement c'est absolument énorme, ça va modifier la manière dont on calcule les taux de captation de CO2 par exemple dans les océans à partir d'aujourd'hui ou pas ?
5%, ça aura certainement très certainement perceptible sur les calculs de flux de matière et les flux de carbone dans les modèles de fonctionnement des écosystèmes. Mmh. Donc ça va être une nouvelle donnée effectivement à prendre en compte.
Okay. L'on va intégrer comment finalement ? Vous avez déjà suffisamment de données sur l'absorption de la production d'oxygène par ces organismes et de production de CO2. Est-ce que vous pouvez déjà faire un bilan qu'on pourrait ensuite extrapoler ?
Alors pas encore malheureusement, puisqu'on vient effectivement de prendre la mesure de l'importance de ce groupe-là. C'est un groupe d'organismes qu'on n'arrive pas à cultiver, donc les méthodes expérimentales sont difficiles à mettre en œuvre, mais c'est effectivement l'objet là de nos études pour les mois et les années à venir, c'est d'arriver à quantifier les flux effectivement d'oxygène et de différents matériaux à travers ces organismes pour pouvoir mieux appréhender leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème.
Dans l'article scientifique paru dans Nature, vous expliquez que ces rhizaires ont été trouvés en fait dans des zones océaniques qui sont très peu explorées. Est-ce que vous pouvez préciser ce point-là ?
Ben en effet, comme je disais tout à l'heure, les organismes vivent en symbiose et donc vivent essentiellement dans le centre des grands océans, pour ceux qui sont symbiotiques. Et c'est le centre des grands océans est typiquement un endroit qui est difficile d'accès et donc très peu exploré.
Est-ce qu'on peut espérer découvrir encore d'autres espèces de plancton inconnues ?
Je pense qu'il y a encore effectivement du plancton qui se cache, en tout cas si ce n'est des espèces nouvelles, c'est en tout cas l'importance de certaines espèces, et je pense qu'effectivement les océans ont encore plein de secrets à nous livrer.
Bon, comme les virus géants, Didier Raoult, on est dans le même cas de figure, hein, vraiment.
Oui, et puis si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles le fait d'avoir des doutes fait que c'est devenu une insulte d'être sceptique dans le monde. Et donc moi, je fais partie des gens qui sont sceptiques parce que je suis un scientifique. Et que, quand on est scientifique, on ne peut pas ne pas être sceptique. Il y a un autre phénomène très important qui vient d'être publié dans Nature aussi, dans les perspectives de sécrétion de dioxyde de carbone et d'oxygène, qui est, il y a des gens qui, pour la première fois, ont regardé s'il était vrai. Vous savez, la plus grande production de dioxyde de carbone, en réalité, ce sont les plantes qui respirent, et donc qui émettent du dioxyde de carbone. Et on s'est rendu compte que quand la température augmentait, elle sécrétait moins de dioxyde de carbone. Et ça n'a été pris en compte, bien sûr, dans aucun modèle, puisque personne ne le savait. Ça vient d'être testé à peine maintenant. Donc, ça veut dire que toutes les projections de modèles, dans un monde d'ignorance, on ne peut pas faire de modèles projectifs qui soient raisonnables.
On en a parlé d'ailleurs dans la tête au carré, il n'y a pas si longtemps que ça. Effectivement,
est-ce qu'on sait, Fabrice Nott, comment réagissent les planctons quand la température augmente ?
Alors, on ne sait pas encore, mais effectivement, ça, c'est une question qu'on se pose, et ça fait l'objet d'un projet financé par l'agence ANR qu'on vient d'obtenir, où, dans la mesure où ces phénomènes de symbiose sont assez similaires à celles des symbioses chez les coraux, comme on observe un blanchissement des coraux, lié notamment à l'élévation de la température, on se pose la question et on va tester l'hypothèse selon laquelle cette rupture de la symbiose aurait également lieu chez ces planctons. Alors voilà, je ne sais pas, dans quelques années, j'espère pouvoir vous apporter une réponse.
Bah nous aussi, et vous avez du pain sur la planche en attendant, donc Fabrice Note avec ces découvertes étonnantes, 5% donc de biomasse en plus avec ce plancton géant. Merci beaucoup Hervé Kempf. On retrouve évidemment ces informations sur reporter.net. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, les bébés de dinosaures géants étaient très vite autonomes, c'est ce que nous révèle une étude new-yorkaise de plusieurs os de bébés titanosaurus, selon la chercheuse Christina Curie, qui a comparé ses os à ceux de certains lézards actuels. Les petits titanosaurus étaient certainement autosuffisants dès l'éclosion de leurs œufs. Leurs proportions générales de leur corps sont exactement les mêmes que celles des individus adultes et la structure interne des os suggère une solidification bien avancée, deux indices forts qui laissent penser qu'à peine sortis de leurs œufs, ces jeunes dinosaures pouvaient à la fois marcher et chercher seuls leur nourriture. Les plantes mémorisent les saisons grâce à des molécules de type prion. Cette étude va certainement donner lieu à de nombreux autres dans le mécanisme de mémoire chez les végétaux qui sont mal connus. Un pas en avant donc qui vient d'être publié par des chercheurs du MIT et qui montre que les plantes pourraient faire la différence entre un coup de froid précoce et l'arrivée véritable de l'hiver grâce à des molécules particulières donc qui contrôlent l'expression de leurs gènes dans le temps. Des molécules capables de s'auto-répliquer dans un état particulier modifiable pour laisser une trace durable, une forme de message à l'intérieur même des cellules de la plante. Et puis hier, le télescope spatial Hubble fêtait ses 26 ans de bons et loyaux service, une longévité record qui ne l'empêche pas de nous émerveiller encore avec de nouveaux clichés très impressionnants. Le dernier en date est celui de la nébuleuse de la Bulle, située à 7000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cassiopée, à une forme très originale, vous le verrez. L'étoile centrale, 45 fois plus grande que notre Soleil, génère un fort vent solaire dans toutes les directions qui repousse les gaz interstellaires pour former donc cette forme de bulle très ronde, très impressionnante. Un nouveau cliché visible sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, Didier Raoult, notre invité donc dans un instant à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Arrêtons d'avoir peur », ce sera juste après September, Earth, Wind & Fire. Allez, pour bien commencer la semaine, Earth, Wind and Fire.
La tête carrée sur France Inter.
Didier Raoul, vous êtes donc l'invité de la tête au carré cet après-midi pour l'arrivée de ce nouveau livre « Arrêtons d'avoir peur », c'est chez Michel Lafon. Vous êtes professeur de microbiologie donc à la faculté de Marseille, directeur de l'IHU Méditerranée Infection. C'est le plus grand centre dédié aux maladies infectieuses. Et puis on vous doit entre autres, on le disait, la découverte des premiers virus géants. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions sur franceinter.fr. « Arrêtons d'avoir peur », c'est quoi? C'est un titre pour apaiser nos angoisses de nous autres pauvres humains anxieux et pessimistes?
Oui, il y a, si vous voulez, un espèce de paradoxe, qui est un faux paradoxe probablement, hein, qui est le premier qui est souligné, c'est Tocqueville à propos de l'évolution économique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'économie va mieux, les gens la ressentent comme étant allant de moins en moins bien. En particulier, il dit ça, lui, au fur et à mesure que les inégalités diminueront, la perception des inégalités résiduelles sera de plus en plus insupportable. Mmh. Je pense que c'est la même chose pour la santé, c'est-à-dire que on a vécu quelque chose qui est absolument inouï, il y a une explosion de l'espérance de vie dans tous les pays, y compris les plus pauvres. Je crois qu'il y a deux pays au monde dont l'espérance de vie n'a pas augmenté depuis 30 ans. En Afrique, au Sénégal, moi que je connais bien, l'espérance de vie actuellement est de 67 ans, c'est plus que la France il y a 30 ans. Donc c'est inouï, c'est un mouvement général. Et face à ça, on a l'impression que jamais les humains n'ont jamais eu aussi peur. Peut-être parce qu'ils ont plus à perdre que quand ils avaient une espérance de vie de 25 ans, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que, qui plus est, nos réseaux sociaux, nos moyens de communiquer actuellement font que les titres accrocheurs sont toujours des titres qui sont très, très inquiétants et qu'ils se multiplient souvent avec des bases scientifiques qui sont modestes, avec des messages simplifiants et qu'on a l'impression que tout le monde est stressé. Finalement, ce qu'on voit, le vrai danger qu'on voit, qui apparaît aux États-Unis mais qui va probablement venir ici, c'est que le vrai problème actuellement, c'est qu'on angoisse tellement les gens que les taux de suicide n'arrêtent pas d'augmenter. Et donc ça, il y a une vraie question, c'est, attendez, comment est-ce qu'on dit maintenant, attendez, c'est le problème social qu'on a à résoudre, c'est plutôt que les gens vieillissent tellement qu'il faudra changer l'organisation sociale, que de se poser la question de savoir si on va tous mourir avec les pesticides, le biphénol ou je ne sais quoi.
Alors Pierre nous dit, justement, il y a une mode actuelle à faire du catastrophisme sur n'importe quel sujet, les questions environnementales n'échappent pas à la règle, comment peut-on distinguer ce qui est vraiment important et qui mérite attention aujourd'hui, ou ce qui révèle parfois du pinaillage.
Justement, c'est compliqué, et derrière, d'ailleurs, sous-jacent à ça, il y a un problème scientifique qui est celui-ci. C'est que nos technologies, actuellement, nous permettent de détecter des molécules à des niveaux absolument infimes. Ça, c'est un premier point, en particulier les nanotechnologies. Donc, on peut détecter une molécule de biphénol ou de pesticide ou ce que vous voudrez. Et à côté de ça, les gens se sont rendus compte, ce qui allait de soi, mais que les gens ne pensaient pas jusqu'à un passé récent, c'est que dans les risques d'exposition à des molécules, il n'y a pas de seuil. Bien entendu, on est une population hétérogène, et donc tout ça est une question de dose, et on sait que c'est une question de dose. Mais quand vous dites, écoutez, c'est dangereux, bien sûr c'est dangereux si vous... Je prends le tabac, par exemple, qui est un bon exemple, je ne suis pas suspect. Quelqu'un qui fume 5 paquets de cigarettes n'a pas le même risque que quelqu'un qui est sur une terrasse à côté d'un fumeur. Donc le tabagisme passif existe dans des conditions extrêmes décrites, mais quand vous passez sur une terrasse où quelqu'un fume, le risque, l'augmentation du risque de cancer du poumon est entièrement négligeable. Mais cette nuance, cette hiérarchie des risques est quelque chose qui a complètement disparu.
Et qu'on n'entend plus.
Et qu'on n'entend plus.
Ouais. Alors justement, vous abordez plein de sujets. Hein. Les races, la théorie de Darwin, le climat, les modélisations mathématiques, la santé. C'était quoi au fond le projet de ce livre? C'était de remettre les choses un peu en place selon aussi votre humeur, vous, de scientifique?
Je ne sais pas, je ne peux pas juger ce qui est à part de mon humeur. Mais ce que je vois, c'est que, si vous voulez, il n'y a plus... D'abord, il y a des problèmes fondamentaux, comme je vous dis, l'absence de seuil, il n'y a jamais de seuil. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de seuil, bien sûr, il n'y a pas de seuil. L'alcool, par exemple, qui est un point qui m'intéresse, on a une production minimale, mais endogène d'alcool. C'est-à-dire les bactéries de notre tube digestif créent l'alcool.
En fabrique.
Et si vous mangez des fruits mûrs, il y a de l'alcool dedans. Donc si vous voulez dire que vraiment il n'y a pas de seuil, que la première goutte d'alcool est pénalisante, il ne faut plus manger de fruits et il ne faut plus avoir de microbes dans l'intestin. Donc ce n'est pas raisonnable. Oui. Et donc c'est comment on hiérarchise les risques, et en particulier les risques qui sont dose dépendants. Et c'est très intéressant. Il y a des gens qui ont des conduites addictives qui sont très dangereuses, si vous voulez, et qui ont peur de choses. Donc moi, je connais dans ma famille des gens très proches qui ont fumé 3 paquets de cigarettes par jour et qui avaient peur de mourir du biphénol. Vous voyez, donc c'est pas raisonnable. Donc il faut re-hiérarchiser les risques.
Alors justement, vous vous présentez comme un athée sceptique et vous rappelez que les théories scientifiques ont beaucoup de similitudes avec les religions. Alors justement, pourquoi ?
C'est pas que les théories scientifiques ont à voir avec les religions. C'est que je pense que la plupart des hommes sont religieux, fondamentalement. Et que donc, ils voudraient faire face à cette instabilité du monde, si vous voulez, en ayant des points de repère qui soient fixes. Mmh. C'est ça qui n'est pas possible. Et donc, ces points de repère fixes, parmi ceux-là, il peut y avoir les théories philosophiques. Moi, je considère qu'une partie du communisme a été quelque chose qui est vraiment un phénomène religieux. Il est vraisemblable qu'une partie de la psychanalyse était un phénomène religieux. Le darwinisme est un phénomène religieux aussi, c'est-à-dire qu'on s'accroche à quelque chose qui remplace un texte par un autre texte et qui, d'un coup, permet une interprétation du monde. Et bien entendu, nous, les scientifiques, ceux qui créons de la science, on ne peut pas croire aux théories scientifiques, à quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des hommes les plus brillants, un des prix Nobel les plus brillants, qui s'appelle Sidney Brière, qui disait je traite les théories scientifiques comme des maîtresses, mais je ne les aime pas et je les abandonne aussitôt qu'elles ne me donnent plus de plaisir. Voilà.
Qu'est-ce qui vous gratouille avec Darwin, Didier Raoul? Vous êtes agacé par quoi? Sa figure même? Tout ce qui s'est cristallisé autour de sa personne?
Non, si vous voulez, je précise que je ne suis pas religieux, c'est parce que je ne suis pas idolâtre. Je n'aime pas les idoles. Donc je ne crois pas, bon, pas plus aux idoles scientifiques qu'à toutes les autres idoles. Et donc, au moment du bicentenaire de sa naissance, il y a eu une telle idolâtrerie, mais y compris dans les meilleurs journaux, dans Science, dans Nature, tout le monde dit oh, le dieu Darwin, que si vous voulez, j'ai commencé à être irrité et j'ai fait que je n'avais pas fait avant, je l'ai lu. Et c'est un tissu d'ânerie, c'est un tissu de bêtises. Et en particulier, moi je conseille à n'importe qui de regarder sur Google, alors que c'est devenu une espèce d'idole de la gauche contre la chrétienté ou la Bible traditionnelle. Si vous lisez L'origine de l'homme, vous êtes sidéré. Darwin, qui était une ignorance terrible, pensait que les Africains ne pouvaient pas se reproduire avec les Européens, ou qu'ils s'y se reproduisaient, ça donnerait des mules, c'est-à-dire des animaux hybrides incapables de se reproduire entre eux. C'est d'une ignorance qui est tellement extrême. Moi, je vous suggère de lire ça. Une fois qu'on a lu ça, on ne peut plus sacraliser ça. Qu'il ait été une étape dans la pensée, c'est incontestable. Mais il faut désacraliser tout ça. On faisait de la science, on ne fait pas de la religion.
Voilà. Bon, sauf que c'est totalement politiquement incorrect de parler de Darwin en ces termes-là aujourd'hui, parce que c'est une idole à laquelle on a du mal à toucher quand même, hein.
Oui, si vous voulez, c'est une vraie question. C'est une question que mes proches m'ont posée beaucoup. Il y a quelqu'un qui a posé cette question, qui a pris malheureusement cette question de manière inverse à la mienne, qui est Bruno Latour, qui avait fait la même chose, un livre sur Pasteur, et qui ensuite a fait un espèce d'acte de contrition en disant on n'a plus le droit de dire que la science est culturelle parce que ça donne des armes aux gens qui sont anti-scientifiques.
Ouais. Et vous vous dites ben non, faut le faire quand même.
Mais, bien sûr, notre rôle, nous, ça n'est pas de défendre la science comme religion, mais de la science comme fait. C'est-à-dire comme, personne ne peut contester qu'on soigne les gens. Les OGM, ça fait 40 ans qu'on soigne le diabète avec des OGM. Enfin, il faut revenir sur Terre. Et de toute manière, quand on ment aux gens, ils finissent par le savoir. Et d'ailleurs, le plus grand mouvement scientifique, qui est complètement l'inverse de ce que disait Latour, actuellement, c'est un énorme moment scientifique qui est celui de la remise en cause de la reproductibilité d'un certain nombre de phénomènes scientifiques. Et ce que l'on voit, c'est que pour des choses comme le cancer, par exemple, on est en train de regarder les 50 papiers les plus célèbres du cancer, il y a probablement la moitié qui sont faux, qui ne sont pas reproductibles. Donc il faut, c'est comme ça.
Ouais, ça dit quoi de la science, ça, au fond?
Ça dit que ce qu'en disait Latour, qui est extrêmement intelligent, c'est qu'une part de la science est factuelle, et une part de la science est une science culturelle. Et il y a, ce que ça dit, ça, c'est qu'il y a des phénomènes scientifiques qui n'existent que dans un laboratoire. Donc ça n'est pas de la science généralisable, c'est les conditions d'observation et de réalisation ont permis dans un laboratoire de faire quelque chose qui n'est pas généralisable.
Oui, mais sauf que l'essence même de la science, justement, c'est la reproductibilité des choses.
Oui,
seul labo, c'est pas suffisant.
Oui,
c'est
ça devrait l'être, mais en réalité, ça n'a pas été comme ça, parce que d'abord, la vérification du travaux des autres était quelque chose qui n'était pas très bien vu, et d'autre part, qui était extraordinairement difficile à publier. Parce que, si vous publiez l'inverse, le mécanisme est un mécanisme pervers, puisque le mécanisme d'évaluation, bon, on n'en connaît pas d'autre, c'est d'envoyer ça de manière anonyme aux gens qui travaillent sur le même sujet que vous. Donc il y a une chance raisonnable que vous écriviez quelque chose qui est complètement à contre-courant et qui donc ne passe pas. Donc il a fallu qu'il y ait vraiment un changement culturel pour permettre de remettre en cause actuellement des choses dont tout le monde considérait qu'elles étaient acquises. Donc c'est un très grand moment scientifique, merveilleux, hein. C'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan... Petit à petit, tout le monde dit, mais attendez, si on enlève les prérequis établissant la loi générale et qu'on regarde simplement les données, qu'est-ce qui reste? Et là, on est sidéré. Voilà.
Écoutons la voix de Jean Rostand, Didier Raoul. C'était en 1949, autour de Darwin, justement.
Une démonstration irréfutable du transformisme qu'apporte Darwin dans l'origine des espèces. Toutes les preuves qu'il produit en faveur de l'évolution sont celles-là même qu'aujourd'hui encore nous utilisons. Preuve par la classification, preuve par l'anatomie comparée, preuve par les organes rudimentaires, preuve par les fossiles, preuve par les embryons. De surcroît, Darwin ne se contente pas de montrer que l'état présent du monde organisé ne se peut interpréter qu'à la lumière de l'hypothèse transformiste. Il propose une explication même du mécanisme de l'évolution, et c'est la fameuse théorie de la sélection naturelle. Dès lors que dans toute espèce, il naît beaucoup plus d'individus qu'il n'en peut survivre à l'état adulte, chaque être doit soutenir pour l'existence une lutte sévère. N'est-il pas naturel de penser que dans chaque génération, les survivants seront les mieux doués, les mieux qualifiés pour vaincre, et par suite ceux qui présentent par le hasard de la naissance les caractères les plus avantageux. S'il en est bien ainsi, et puisque les caractères se transmettent par voie d'hérédité, on doit s'attendre que cette élection, cette sélection constamment renouvelée, finira par faire progresser l'espèce en l'adaptant toujours davantage aux conditions d'existence.
Alors, Didier Raoul, les propos de Jean Rostand, justement, tout ce qu'il décrit s'est dépassé aujourd'hui?
Oh oui, c'est idiot. C'était même idiot. À l'époque, il y avait, si vous voulez, les gens disent maintenant, vous dites ça maintenant de Darwin. Bien sûr, moi, j'ai pris tout ce qu'il disait. On a montré que chacun des trucs était approximatif ou entièrement faux. Ça y est, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Mais si vous regardez quelqu'un qui est son contemporain, qui est Friedrich Nietzsche, il disait, mais enfin, écoutez, n'importe qui, à l'observation, on voit bien que c'est la médiocrité qui triomphe et pas l'élite. Enfin, c'est pas vrai. C'est un truc, tout le monde sait ça sous les yeux. Jamais personne n'a vu que les humains les plus performants dans un système donné avaient plus d'enfants que les autres. C'est idiot, c'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit.
Et alors, l'évolution lente et graduelle, ça aussi, c'est à rejeter complètement aujourd'hui. Parce que c'est ignoré, c'est ce que vous dites, hein, tous les phénomènes catastrophiques, justement, qui interviennent au hasard.
Bien sûr, on sait en plus pourquoi, on sait très bien pourquoi Darwin pensait ça. C'est parce qu'il y avait deux affrontements à l'époque de Darwin. Il y avait un affrontement. La vraie question, c'était comment expliquer les fossiles. Et donc, il y avait les fixistes. Je pense que les fixistes ont encore plus tort que Darwin. Donc, mais les fixistes qui disaient, écoutez, non, les choses ont toujours été pareilles, mais il y a eu un certain nombre de catastrophes qui a fait détruire des animaux en même temps que les animaux modernes existaient. D'accord? Et à côté de ça, et donc, c'était les gens qui donnaient comme explication aux fossiles la catastrophe. Et donc, Darwin était hostile au principe de la catastrophe parce que ça contredisait l'évolution telle qu'il la voyait. Et donc, c'est pour ça qu'il dit plusieurs fois, il dit au moins 10 fois dans son livre, la nature ne fait pas de saut. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc tout ça est graduel, progressif. Un, on sait que c'est pas vrai. Et puis deuxièmement, on sait qu'il y a une partie du transfert de l'information qui est lamarckien. Et puis troisièmement, une partie importante, probablement une des parties les plus importantes.
Voilà, donc c'est fait pour Darwin, mais ça va continuer dans un instant. On va parler climat aussi avec vous, Didier Raoult. Race et OGM avec les messages des auditeurs, franceinter.fr. avec la femme à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà Didier Raoult, libre penseur avec ce livre « Arrêtons d'avoir peur », c'est aux éditions Michel Lafon. On parlait de Darwin tout à l'heure. Quand on n'est pas dans le camp de Darwin, forcément, on vous classe dans le camp des créationnistes, Didier Raoult. C'est votre cas ou pas? D'ailleurs, vous écrivez à un moment « Je suis créationniste », mais c'est juste histoire de faire de la provoque.
Même pas, c'est-à-dire je pense que le fait de nommer... Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé les postmodernes. C'est-à-dire, j'adore que les qualificatifs soient exacts, les mots soient exacts. Et donc, les créationnistes sont pas du tout créationnistes. Au contraire, ils sont anti-créationnistes. C'est les fixistes. On les appelait comme ça, et puis c'est les Anglais qui ont appris ça, les créationnistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que rien n'a bougé, rien ne change, et c'est un mouvement de pensée extrêmement important. Et de l'autre côté, il y a les gens qui pensent que tout bouge tout le temps. Donc moi, la raison pour laquelle je n'ai pas une grande estime pour Darwin, c'est parce que Lucrèce écrivait ça au IIe siècle avant Jésus-Christ, et c'était infiniment plus crédible et plus proche de ce que nous savons scientifiquement que ce qu'écrit Darwin. Donc, c'est pas Darwin qui a inventé. Il y a eu un moment où le côté du pouvoir a été celui de Platon, Aristote, et qui a fixé les choses en disant, voilà, les choses, un, sont fixes, et deuxièmement, quand elles changent, c'est pour aller vers un but.
Ouais. Voilà. Mais c'est compliqué de vous définir au fond. Hein. Quand on lit ce livre, on se dit, mais il est placé où alors? Parce que athée sceptique, bon d'accord, pas darwiniste, pas créationniste.
Non mais en particulier, ce qui est l'ambiguïté du mot créationniste, c'est que, et de la pensée darwinienne, c'est que ça nous a empêché de voir qu'il se crée sans arrêt des choses. En particulier, il se crée des gènes, il se crée des protéines nouvelles. On peut pas imaginer que depuis 3 milliards d'années, tout ce que nous avons dérive de choses. Non, ce qui une vraie, en partie, c'est qu'on utilise le même code génétique. Pour le reste, il naît des protéines sans arrêt, il naît des organismes sans arrêt, chimériques, mélangés.
On va y venir.
Et donc, l'hypothèse darwinienne ne peut absolument pas intégrer ni le chimérisme, ni la créativité permanente de la nature. Donc, il y a une créativité permanente de la nature. C'est pour ça que peut-être je suis un créativiste. Mais en tout cas, je ne crois ni au fixisme, ni à l'évolution telle qu'elle est définie avec tout dérive de quelque chose de connu, ce qui est l'hypothèse de l'arbre de la vie qui est sorti directement de la Bible.
Ouais, et ça, l'arbre de la vie, justement, vous le rejetez, l'idée même d'un premier ancêtre commun.
Si vous voulez, l'arbre de la vie tel qu'il est représenté par Darwin, plus personne de scientifique n'y croit. C'est-à-dire que c'est un buisson complexe. Alors les gens appellent ça un réseau. Moi, j'appelle ça un rhizome. Mais de toute manière, il y a des gens qui disent c'est l'arbre de 1% des gènes, qui est probablement moins que ça. Ouais. Donc c'est pour les bactéries, c'est de l'arbre de 1 pour 1000 des gènes. Donc ça ne représente pas la réalité. En réalité, tout ça, on n'évolue pas sur des branches qui sont différentes. Tout ça se remélange sans arrêt. Ouais. Par exemple, c'est ce qui...
Donc il n'y a pas de dernier ancêtre commun non plus.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de dernier ancêtre commun. Après, on peut dire le dernier ancêtre commun, c'est le code génétique. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses qui se sont recyclées, en particulier dans ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun, c'est l'ancêtre des cellules telles qu'on les connaît maintenant.
Lucas?
Oui, mais ça, les évaluations qu'on a qui valent ce qu'elles valent, hein, on prédit pas plus le passé que l'avenir, mais c'est que c'est relativement récent. C'est-à-dire, ça a 1,5 milliard d'années ou 2 milliards d'années. Et il y a des protéines dont on sait qu'elles sont beaucoup plus vieilles que ça, qui appartenaient à des choses qui ont disparu et qui ont été recyclées. Donc, ça, c'est un point sur lequel on voit émerger les choses. Il y a un vrai mouvement scientifique de pensée qui est alternative par rapport à cette vision-là, qui se développe et qui devient majoritaire.
Hein. Didier Raoult, la science a des choses très claires à nous dire également au sujet de la question des races. Avec un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. C'était le cas en septembre dernier, grâce à Nadine Morano.
La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. La France est un pays de race blanche, dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça,
on n'a pas le droit de dire noir.
Non mais le mot nous, c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mot noir.
Les Antilles sont comment au niveau de la race blanche?
C'est une phrase du général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle dit ça, excusez-moi.
C'est une phrase du général de Gaulle.
Mais répondez-moi, ils sont pas blancs.
Mais non, ils sont pas blancs. Ça n'empêche pas qu'ils sont français.
Non, mais vous dites les racines de la France, la France est blanche. Donc je m'interroge sur les Antillais qui écoutent l'émission ce soir. Ils disent, mais je suis pas tellement blanc.
Non, mais c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche.
Alors, Didier Raoult, il faut donner des cours de science aux hommes politiques, et pas seulement à eux d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de peau noire ou blanche, c'est une réalité.
Ah bien sûr, c'est-à-dire que c'est impossible de définir des Français de souche pour une bonne et simple raison, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout bouge tout le temps, y compris les frontières de la France. Donc la France, je vous rappelle que jusqu'en 1962, il y avait 3 départements algériens. Je vous rappelle que le comté de Nice est devenu français à partir de 1860. La France n'est pas une entité géographique définie, donc sa population n'est pas définie, et puis la population a sans arrêt bougé. Et la France est faite, en plus elle est placée à une intersection de l'Europe qui fait entre la Méditerranée d'un côté, le Nord et les Allemands à droite, on a été une terre qui a passé sa vie à être envahie. Moi, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça en France, mais aux États-Unis, on a le droit de faire ça. J'ai regardé quelles étaient mes origines génétiques, ouais. Et ça m'a beaucoup irrité.
Vous êtes scandinave, c'est ça?
À 80%, oui, parce que ma famille venait essentiellement de Normandie et du Nord de Bretagne. Donc je suis un enfant très loin d'immigré. Voilà. Madame Morano aussi, d'ailleurs. Et donc je suis d'ailleurs frappé que beaucoup d'hommes politiques qui interviennent sur la nature d'être français sont des enfants d'émigrés. C'est un peu étrange. Il y a une chose qui a certainement un sens, si vous voulez, mais les plus acharnés à défendre la nouvelle francité, ce sont des gens qui renient leur propre origine, et c'est assez intéressant. Ouais. Quant à la race blanche, moi je vous conseille, en réalité, il y a un gradient qui va de l'extrême nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique centrale, qui va du plus clair au plus foncé, et il n'y a pas un endroit où ça saute. Tout ça est continu. Et bien entendu, ce qui a différencié, c'est la base du racisme moderne, ça a été quand les Anglais sont allés en Afrique. Alors là, nous, dans la Méditerranée, on a toujours eu cette progression. Est-ce que là, il y avait vraiment un choc, une vraie différence de couleur entre les gens très clairs et les gens très foncés. Quant à blanc et noir, bien entendu, c'est une fantaisie. Mettez votre main sur un papier blanc et vous verrez bien que c'est pas blanc. Ça n'a pas de sens. C'est idiot.
Avec l'idée aussi que le métissage, c'est la règle dans la nature.
Oui, oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas empêcher.
Et on n'y échappe pas.
Non, parce que le désir est incompréhensible. Et donc, le désir ne répond pas à quelque chose de scientifique. Ouais. Donc, dès qu'on se rencontre, en réalité, on fait ensemble, que l'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ce soit officiel ou que ce soit pas officiel, on fait du métissage. Mais cette question est une question qui, scientifiquement, a une importance absolument considérable. Cette vision de darwinisme, cette vision des races, a empêché de comprendre que nous étions un mélange, c'est une grande question scientifique, j'ai plus grande difficulté à faire passer ça. Nous sommes un mélange d'hominidés dans le monde, de sources différentes. Et en particulier, nous, ici en Europe, on a une proportion de Néandertal qui n'est pas négligeable.
Notre peau claire, on la doit à Néandertal, très clairement.
Probablement en partie, oui. L'autre chose, c'est que, là aussi, si vous voulez, noir, pendant très longtemps, les gens ont pensé que les Mélanésiens, c'est-à-dire les gens qui ont la peau la plus sombre au Pacifique, avaient quelque chose à voir avec les Africains. Ils n'ont strictement rien à voir. Génétiquement, ils sont complètement différents. De la même manière qu'en Inde, où il y a le même gradient nord-sud de peau foncée, les gens qui ont une peau foncée, qui sont très foncé, les Indiens du Sud, ils n'ont rien à voir ni avec les Africains, ni avec les Mélanésiens. Donc la couleur, ou le fait que la peau soit plus ou moins teintée, n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on vienne génétiquement d'un endroit ou d'un autre. Donc ça n'est pas une définition scientifique, c'est une définition d'observation. Les gens sont plus ou moins foncés, bien sûr, ils sont jamais noirs, ils sont jamais blancs, ils sont plus ou moins foncés, de beige à rose, en passant par bronzé, en passant par chocolat ou café, si vous voulez, mais noir et blanc n'existent pas.
Et nous sommes tous des bâtards, en quelque sorte.
Hein. Ah, oui, bien sûr.
On peut le rappeler, et vous l'écrivez.
Oui, d'ailleurs, ceux qui ont la curiosité de le faire et qui ont de quoi le payer, ça coûte à peu près $200, peuvent tester à 23,5 aux États-Unis, vous envoyez un peu de salive, et on vous fait toutes vos origines, et vous êtes terrifiés, parce que vous voyez, vous avez des morceaux qui viennent de tout, un peu de Néandertal, un peu d'Afrique.
Pour ceux qui défendent l'idée de français de souche, ça fait très très mal. Hein,
ah oui.
Puisque nous descendons tous d'immigrés, effectivement, et nos ancêtres ne sont donc pas les Gaulois. L'évolution des langues, c'est aussi le fruit du métissage, Didier Raoult ?
Oui, d'ailleurs, s'il y a quelque chose dont je pense que nous sommes, qui a le plus marqué l'histoire de France, c'est probablement l'appartenance à l'Empire romain. Ça, je pense que la langue, la structure de l'organisation sociale dépend beaucoup de le truc. Les Gaulois, c'est un fantasme, mais on voit que ça gagne tout le monde, hein, y compris des gens qui ont l'impression qui représentent pas cette vision restrictive du monde. Hein. En réalité, les Gaulois étaient pas là avant les Grecs. Hein, donc, c'est une population de passage qui s'est fixée là parce qu'elle a été chassée de Turcs et de Grèce qu'elle avait envahi, ou de Rome qu'elle avait envahi aussi. Donc elle s'est retrouvée, elle envahissait une partie de l'Italie jusqu'à la Belgique. C'est pas une population résidente depuis très longtemps.
Franck nous dit, j'apprécie la critique constructive de votre invité sur les grandes théories scientifiques. Pour autant, lui qui n'a pas peur, ne craint-il pas néanmoins que cette critique ne soit reprise et instrumentalisée par les parties les plus obscurantistes de notre société ?
C'est pas moi, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un gourou. Mon rôle, c'est d'analyser les données scientifiques.
Et de douter aussi.
Et de douter, bien sûr. Mais ça, c'est les scientifiques qui ne doutent pas. Honnêtement, ils ont quitté notre club pour entrer dans un autre club. C'était le cas, malheureusement, de Benoît Latour. Nous, notre rôle à nous, ça n'est pas celui-là, c'est le scepticisme. C'est d'expliquer qu'il y a un doute, quitte à ce que on revienne. Enfin, moi, j'ai été très intéressé, parce que c'est vraiment du postmoderne, sur la théorie de Butler, sur les genres. C'est très intéressant. C'est très intéressant de remettre en cause pour savoir ce qui était entièrement culturel et ce qui n'est pas. Mais on ne peut pas dire que tout est culturel non plus. C'est pas raisonnable.
Alors là, il y a une autre question explosive, justement, que vous abordez. Hein, c'est celle du rapport entre les sexes, entre les hommes et les femmes, parce que vous rappelez qu'il y a des différences irréductibles.
Bien sûr.
Qui sont liées à quoi ?
Elles sont liées d'abord à l'anatomie. D'accord, moi, j'ai vu ça, j'abordais ça comme médecin, d'abord, bien entendu, les infections des organes génitaux ou les cancers des organes génitaux. Les deux cancers les plus fréquents, quand même, c'est le cancer du sein et le cancer de la prostate, quand même. Ça différencie bien les genres, quand même. Hein. Donc, oui. Ensuite de ça, dans les infections, sur lesquelles moi j'ai beaucoup travaillé, bien entendu, les infections n'ont rien à voir.
Beaucoup de distinctions entre les sexes.
Il y a beaucoup de distinctions. Alors, non seulement anatomiques, mais nous, ce qu'on a été parmi les tout premiers à écrire, c'est une équipe chez moi, celle de Jean-Louis Meige, c'est que les hormones femelles influence l'expression des infections. Et ça, maintenant, c'est connu pour une maladie sur laquelle on travaillait, mais c'est connu pour la tuberculose, et on voit bien qu'en réalité, dans toutes les maladies, il y a ce qu'on appelle un sex ratio qui n'est pas égal à 1. C'est-à-dire que jamais, il y a toujours soit plus de femmes, soit plus d'hommes qui font tel type ou tel type de maladie. Alors, certaines sont environnementales, hein, bien entendu. Avant, les gens qui avaient des accidents de la route, c'était plus les hommes que les femmes parce que les femmes ne conduisaient pas. Donc ça, c'est un phénomène qui se modifie. Il y en a d'autres. Il y avait plus de cancers du poumon chez les hommes que chez les femmes parce que les hommes fumaient et pas les femmes. Maintenant, les femmes rattrapent les hommes. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels ça reste extrêmement séparé. Parfois, on comprend. Parfois, on comprend
pas. Le rôle de la testostérone, par exemple, ça joue...
Écoutez, honnêtement, la testostérone, avec quoi vous croyez comment vous croyez que l'on dope les gens. On les teste avec de la testostérone, avec de la cortisone. Donc si vous donnez la testostérone aux gens, ils sont trois fois plus musclés. Donc ceux qui ont plus de testostérone naturellement, et c'est un des domaines dans lequel la différence entre les hommes et les femmes est spectaculaire.
Allez, on se retrouve dans un instant, derrière partie de cette discussion, Didier Raoult.
D'ailleurs, si vous mettez...
I heard it pays in space to be on your back again. Poison all your friends. And if you did it today, you could have gone beyond your means. Get old but live the dream.
Moon Run à l'instant. Le changement climatique est réel et ça se passe maintenant.
C'est le sujet le plus important auquel toutes les espèces doivent faire face. Et nous devons travailler ensemble et arrêter de remettre à demain. On a besoin de soutenir les leaders à travers le monde qui ne parlent pas pour les gros pollueurs ou les grosses entreprises, mais qui parlent pour toute l'humanité, pour les peuples autochtones, pour les millions et millions de personnes sans privilèges qui vont être impactées, pour les enfants de nos enfants et pour tous les gens dont la voix n'est pas entendue par les politiques environnementales. Je pense à ce futur monde ce soir. Ne prenons pas ce monde pour acquis. Je ne le prends pas pour acquis ce soir.
La voix de Leonardo DiCaprio, c'était aux Oscars en février dernier, Didier Raoult. Le climat, vous en parlez abondamment également dans ce livre. Vous vous méfiez beaucoup des prévisions sur le réchauffement climatique. Mais pourquoi
si vous voulez, voyez la même réaction que j'ai eue vis-à-vis de Darwin qui devenait une idole. Si vous voulez, quand j'entends DiCaprio qui fait le prophète, là on dirait le prophète Isaïe, si vous voulez, je trouve ça personnellement ridicule. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant, mais c'est ridicule.
La COP21, c'est ridicule pour vous?
Non. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que on rentre d'une manière ou d'une autre, on est rentré depuis un certain temps dans ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire que l'homme modifie son environnement, d'accord, et le modifie dans un sens qui est difficile à évaluer. On ne sait pas vers où ça va aller. Donc c'est raisonnable de se poser la question de savoir comment on essaie d'organiser ces modifications que l'on emprunte. Après, si vous voulez...
Donc il y a réchauffement, augmentation des températures, alors, ça vous êtes d'accord avec ça?
C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, si d'ailleurs, il le dit, si vous l'entendez, mais il faut être un peu subtil pour l'entendre. On est passé du réchauffement climatique au changement climatique. Parce que le réchauffement climatique, c'est surtout l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, par exemple, si vous regardez, alors je sais pas ce que sera l'année prochaine, mais jusqu'à présent, vous regardez l'année dernière les images de la NASA, et tout le monde peut regarder ça sur Wikipédia. Hein, c'était, en réalité, la surface de la banquise en Antarctique a augmenté de 25 à 30%. Donc, si vous voulez, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a un changement climatique, il se passe quelque chose. Ce changement climatique, il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine a aidé à le générer. Maintenant, je continue à penser que le futur est imprévisible et je suis plus sceptique, peut-être parce que je suis plus vieux. Est-ce que vous connaissez le protocole de Montréal? Vous le connaissez?
Alors, dites-nous.
Le protocole de Montréal, ça a été signé en 1987, c'est-à-dire au moment où l'hémisphère nord avait commencé à chauffer depuis 7 à 8 ans. Mais personne ne
le disait. C'est l'époque où on disait que tout allait se refroidir.
Exactement. Hein. Et si vous regardez, c'est facile, vous regardez dans les années 70, vous regardez sur Wikipédia et vous verrez, le Time Magazine faisait toutes ses premières sur le froid, tout le monde gelé, on allait tous mourir de froid. Le protocole de Montréal, ça a été fait pour empêcher le refroidissement de la planète au moment où elle réchauffait. D'accord? Et il est vraisemblable qu'une des conséquences importantes du protocole de Montréal a été une augmentation de la production de gaz à effet de serre en changeant les fluides réfrigérants des congélateurs qui sont maintenant beaucoup plus producteurs de gaz à effet de serre que ce qu'étaient avant les aérosols qui étaient accusés, eux, de détruire la couche d'ozone et de favoriser le froid. De la même manière, si vous voulez, donc je me méfie des idées simples.
Alors, vous êtes climato-sceptique ou pas, Didier Raoult?
Je suis sceptique tout court. Alors, si vous voulez appeler ça climato-sceptique, je m'en fous, je suis sceptique tout court. Donc, je regarde les éléments, je pense que c'est important de mettre ça sur la table, d'avoir une réflexion. Je comprends bien que les politiques ont besoin de dire des choses simples, mais il faut se méfier. Parce qu'avec le temps, vous savez, quand vous voyez le prix Nobel, la main sur le cœur, dit, regardez, en 2012, il y aura plus de glace.
Al Gore,
dans l'océan Arctique. On voit bien que c'est pas vrai. Et que donc, de mentir aux gens pour leur dire, écoutez, ou simplement d'y croire, en leur prédisant des choses qui ne se passent pas.
Donc, la prédiction, la prévision, vous n'y croyez absolument pas en science?
Absolument pas. Non. Pour les choses
complexes. On peut rien prédire?
On peut prédire des choses dont, quand on est un système que l'on maîtrise en grande partie, d'accord. Mais quand c'est, je vais vous dire, il y a une chose qui scientifiquement, que les scientifiques, et en particulier mon fils avec qui j'ai une discussion très intéressante avec là-dessus, insiste. La base de la science et la base de la prédiction, c'est la comparaison dans des conditions égales. Mais bien entendu, on ne peut pas comparer l'évolution du climat à quoi que ce soit d'autre, puisqu'on n'a pas d'autres exemples et on ne peut pas en avoir. Donc tout ce que l'on fait, c'est des spéculations à partir de ce qui s'est passé dans le passé, en créant des modèles dont vous voyez bien que voilà, vous découvrez le plancton, c'est pas pareil, vous découvrez la respiration des plantes, c'est pas pareil, et que donc les choses refusent d'être aussi simples. Elles ne sont pas aussi simples. Mais ce qui est vrai, c'est que si la tendance que l'on a vue depuis maintenant une vingtaine d'années
se poursuit,
eh bien la planète va réchauffer avec des conditions, avec des conséquences dont moi je ne sais pas dire si elles seront bonnes ou est-ce. Je sais que le froid c'est très mauvais.
Ouais, voilà. En tout cas, le climat joue énormément.
Le climat joue.
Sur la santé, sur les virus par exemple, sur les organismes.
Oui, mais par exemple, si vous voulez quelque chose qu'il faut pas dire, pendant l'année 2015, il y a eu une énorme crise agricole. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça a été la plus chaude, la production agricole était beaucoup plus importante et donc les cours agricoles se sont écroulés. Donc tout changement, mais ça ne veut pas dire qu'on va mourir de faim. Peut-être qu'au contraire, si vous voulez, si toute la Sibérie devient fertile, si vous voulez, il y a un grenier à blé là qui nourrira 9 milliards d'habitants.
Ah oui, donc évidemment, oui, là c'est sûr qu'on aura de la place sur la pute de glace en Sibérie. C'est une façon de voir les choses, effectivement, Didier Raoult. Viron nous dit ne pas être catastrophiste, d'accord, mais alors comment peut-on faire pour prendre conscience de la gravité de la crise écologique, alors qu'il ne faudrait pas plus de... Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter d'extraire ces ressources fossiles? Peut-on continuer dans la vision à court terme? Bref, qu'est-ce que vous lui répondez?
Là aussi, je pense que les réponses peuvent pas être simples oui non. Regardez par exemple l'Allemagne, qui est dans le pays dans lequel il y avait le plus d'écologistes, a pris une position qui était celle moi de ma jeunesse, qui était nucléaire kein Nein, donc pas de nucléaire. Très bien. Moyennant quoi, l'Allemagne est devenue un des trois pays les plus pollueurs au monde parce qu'ils ont fait l'énergie avec le charbon. Donc est-ce que c'était vraiment mieux? Donc, vous voyez, aussi bien le protocole de Montréal que la décision de ne pas faire de nucléaire, il faut se méfier, si vous voulez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut se méfier du simplisme extrême, si vous voulez. Donc, je sais bien que les politiques et souvent les journalistes ne peuvent pas manier autre chose que des concepts très simples. Mais
merci pour nous.
Je m'excuse. C'est pas si simple.
Voilà. Il y avait une question d'ailleurs sur les médias d'un auditeur que j'ai plus sous la main, mais enfin qui vous posait justement la question, la façon dont les médias relayaient effectivement ces informations catastrophistes. Vous pensez qu'il y a une application extrêmement importante là-dedans?
Si vous voulez, moi, je ne crois pas à la théorie du complot, donc je ne crois pas que les journalistes soient fondamentalement, ou les hommes politiques, ou les scientifiques soient fondamentalement différents de l'ensemble de la population. Ouais. Ça représente un sous-échantillon, bien sûr. Mais ce que nous, on appelle l'appétence pour la peur du risque, je crois que c'est quelque chose qui est naturel et qui va avec tous les êtres vivants. Les êtres vivants, si vous regardez n'importe quel animal, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose, il se méfie et il a raison, parce que c'est grâce à ça qu'il survit. Maintenant, parfois, c'est panique. Quand la peur qui est suscitée par un événement nouveau se transforme en panique, alors on peut avoir des millions de morts liés à la panique, simplement parce que ça devient incontrôlé, ça devient déraisonnable. Donc, c'est naturel, si vous voulez, que les gens aient plus d'attention pour les choses qui sont dangereuses ou qui sont inquiétantes, en particulier dans celles qui sont nouvelles, que pour n'importe quoi d'autre. Je vais vous donner un autre exemple. Mmh. J'ai souligné la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis un an. Il est sorti dans le New England Journal of Medicine sur une grande étude qui est très connue dans le monde scientifique, qui s'appelle l'étude Framingham. On a montré qu'en 30 ans, le nombre d'Alzheimer a diminué de 44%. Vous avez lu ça nulle part. D'accord? Le nombre d'Alzheimer dans la population a diminué de 44% dans la population américaine. D'accord. C'est étonnant, mais c'est pas une nouvelle qui va faire le circuit du buzz parce que ça ne fait pas peur.
Ouais. Et vous pensez vraiment que toute bonne nouvelle comme celle-ci n'a aucune portée
Honnêtement, qui voulez-vous relayer quelque chose comme, écoutez, on a moins d'Alzheimer qu'hier. Est-ce que si vous dites, écoutez, il y a plus d'Alzheimer et c'est dû au Roundup, si vous voulez, vous aurez une explosion de 1 million de gens qui vont se connecter.
Bien, on a compris en tout cas la teneur de votre livre, Didier Raoult. Arrêtons d'avoir peur. Santé, environnement, climat, flux migratoire, société, la science vous aide à y voir clair. C'est chez Michel Lafond. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Tête au Carré. Tous les messages, vous pouvez les adresser directement à l'IHU de Marseille. Ça nous évitera de vous les faire transférer. Merci beaucoup.